est 7h30 à Paris, une heure de moins en temps universel. L'actualité africaine avec Pierre Boudias, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Le Royaume-Uni impose des sanctions au Rwanda. Londres suspend la quasi-totalité de ses aides financières en raison du soutien de Kigali à l'offensive du M23 dans l'est de la RDC. Mesure dénoncée par le Rwanda, vous l'entendrez. Embouteillage électoral au Cameroun. À quelques mois de la présidentielle, les candidatures se multiplient dans l'opposition. L'hypothèse d'un front uni face au pouvoir semble s'éloigner. Les banques d'aide au développement se réunissent en Afrique du Sud. Elles doivent tenter de définir l'avenir du financement public international, un secteur bouleversé par le désengagement de l'agence américaine USAID. Et puis une figure de la pensée décoloniale au cœur du dossier d'Afrique Matin, Frantz Fanon, dont la pensée reste méconnue au Maghreb. 100 ans après sa naissance, intellectuel et cinéaste tente de combler ses lacunes. Après les États-Unis, autour du Royaume-Uni de sévir contre le Rwanda, Londres a une nouvelle fois dénoncé hier la prise de Goma et Bukavu par le groupe armé du M23 et les forces de défense rwandaises. Elle constitue pour Londres une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Au-delà des mots, le gouvernement britannique annonce la suspension de l'aide bilatérale directe aux autorités de Kigali, à l'exception des fonds destinés aux plus vulnérables, la réduction des activités de promotion commerciale avec le Rwanda ou encore l'arrêt de l'assistance pour les formations militaires. Et la réponse du gouvernement rwandais ne s'est pas fait attendre, Lucie Mouillot.
Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères rwandais, le Royaume-Uni a, je cite, « désormais clairement choisi un camp dans le conflit ». Les mesures punitives annoncées par Londres sont regrettables pour Kigali, qui déclare qu'elle n'aide en rien la RDC et ne contribue pas à la recherche d'une solution politique durable. Il est déraisonnable de s'attendre à ce que le Rwanda compromette sa sécurité et celle des Rwandais, poursuit le communiqué, ajoutant que le pays continuera d'exiger des garanties en la matière. Les annonces britanniques interviennent moins d'une semaine après la décision du Trésor américain de sanctionner le ministre de la coopération régionale James Kabarebe, présenté comme un acteur central du soutien de Kigali au groupe armé du M23. Figure historique de l'appareil sécuritaire rwandais, le général à la retraite a dénoncé ce mardi, pendant une réunion avec des partis politiques, les mesures punitives contre le Rwanda qui, selon lui, compromettent les efforts de paix menés au sein des processus de négociation fusionnés de Luanda et Nairobi. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Et dans ce contexte, la République démocratique du Congo vient de suspendre ses exportations de cobalt pour 4 mois, un minerai rare indispensable aux batteries rechargeables dont la RDC est le principal producteur mondial et dont les cours sont à la baisse. Kinshasa accuse Kigali de soutenir l'offensive du M23 dans un objectif de pillage de ses ressources et de revente aux Occidentaux. Et dans ce contexte sécuritaire toujours tendu, l'opposition congolaise dénonce l'intolérance politique croissante dans le pays. Dimanche dernier, une matinée politique du parti ADD Congo de la coalition Lamuka, formée autour de Martin Fayulu, a été stoppée par un assaut d'hommes munis d'armes blanches dans un quartier industriel de la capitale. Les auteurs de la violence sont identifiés comme militants de la Force du Progrès, un mouvement proche du parti présidentiel UDPS. On parle d'une vingtaine de blessés sans intervention de la police. Jean-Félix Sanga est le secrétaire exécutif de la coalition Lamuka. Il dénonce un assaut d'une grande violence et appelle à une réponse judiciaire. Écoutez-le.
Ils avaient des couteaux, des machettes, des marteaux, tout ce qui était tranchant. Ils ont blessé beaucoup de membres. 24 personnes sont hospitalisées. Le président fédéral de ADD Congo qui est porté disparu. Il y a 2 personnes qui sont en train de vivre maintenant en clandestinité. La police qui interdirait, qui s'opposerait, qui protégerait cette milice de l'UDPS appelée Force du Progrès. Comme le procureur de la Cour pénale internationale est ici, nous voulons saisir cette opportunité pour lui demander s'il pouvait inscrire sur la liste des groupes armés qui terrorisent la population à travers le pays, qu'il inscrive sur cette liste la Force du Progrès et la brigade spéciale de l'UDPS, qui sont des chevilles ouvrières qui veulent vraiment anéantir, étouffer la démocratie. Nous ne le laisserons jamais faire.
Jean-Félix Sanga, il était face à la presse hier à Kinshasa. L'opposition camerounaise, cette fois, elle continue de se morceler. Vendredi, Tomahino Ndamjoya, la présidente de l'UDC, a annoncé sa candidature à la présidence de la République. Scrutin qui doit se tenir cette année. La maire de la ville de Fumban, dans l'ouest du pays, rejoint ainsi la dizaine de figures d'opposition et les quelques personnalités de la société civile qui briguent également la la présidence, un temps évoqué par les leaders de l'opposition. L'hypothèse d'une candidature unique face à celle du pouvoir semble avoir du plomb dans l'aile. Correspondance de Polycarpe et Somba.
Maurice Kamto GMRC Cabral Libi pour le compte du PCRN à Kérémouna au nom du parti Univers et donc aussi Tomaino Ndamjoya pour l'UDC. Tous ces leaders et d'autres sont des candidats déclarés à l'élection présidentielle d'octobre 2025. S'ils doivent encore passer le tamis des validations par ELECAM, l'organe en charge des processus électoraux au Cameroun, à l'évidence, c'est en rang dispersé que l'opposition camerounaise avance vers cette élection présidentielle. En décembre 2023, lors de la convention du MRC au cours de laquelle la candidature de Maurice Kamto avait été annoncée, l'opinion publique apprenait aussi la naissance d'une coalition, l'Alliance politique pour le changement. Cette coalition devait agréger partis politiques et organisations de la société civile autour du leader du MRC, mais deux ans plus tard, l'identité de ses membres reste mystérieuse. Dans la foulée, une autre coalition sortait des fonds baptismaux, l'Alliance pour la transition politique, avec les mêmes intentions, trouver le candidat le plus consensuel dans les rangs de l'opposition. Mais à peine était-elle annoncée que certains des membres ont fait défection. L'idée d'une candidature unique de l'opposition était alors définitivement enterrée, pas tout à fait selon quelques indiscrétions. L'idée serait aujourd'hui d'attendre de voir les candidatures qui seront retenues par ELECAM et de choisir parmi les leaders admis celui qui aurait le plus de chances de vaincre le candidat du pouvoir. Polycarpe Somba Yaoundé, RFI.
RFI, il est 8h36 à Djouba, le Soudan du Sud, où l'accord de paix de 2018 semble de plus en plus fragilisé. Il a mis en place un gouvernement d'union nationale et de transition qui siège dans la capitale. Le président Salva Kiir et son opposant historique, le vice-président Riek Machar, partagent donc le pouvoir. Mais depuis le début de l'année, des confrontations directes entre leurs forces militaires ont été rapportées dans plusieurs régions. Et hier, l'opposition a dénoncé le bombardement d'une de ses bases militaires par l'armée sud-soudanaise dans le nord-est du pays. Florence Mieto.
Tôt dans la matinée, les images d'un hélicoptère militaire ont circulé sur les réseaux sociaux évoquant un bombardement sur le comté de Oulang dans le Haut-Nil. Le porte-parole de l'armée d'opposition de Riek Machar a ensuite dénoncé sur Facebook, puis dans la presse locale, une violation commise par l'armée sud-soudanaise. Des points de rassemblement des forces armées d'opposition ont été, selon leur porte-parole, bombardés par l'armée gouvernementale. Dans un communiqué, le porte-parole de l'armée sud-soudanaise n'a pas confirmé le bombardement, mais évoquait une opération de surveillance aérienne. Selon lui, depuis deux semaines, l'armée d'opposition et la White Army, une milice de bergers nuaires, ont mobilisé un grand nombre de forces. Ils auraient l'intention d'empêcher un déploiement de l'armée sud-soudanaise à Nassir et d'attaquer le comté de Baliet, toujours selon le porte-parole de l'armée. Déjà, de violents combats avaient éclaté à Nassir les 14 et 15 février, opposant l'armée sud-soudanaise aux jeunes nuaires armés. L'ONU se dit très préoccupé par les rapports indiquant une escalade dans le Haut-Nil et appelle au calme. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Après deux ans de guerre civile, l'armée soudanaise se rapproche un peu plus du centre de Khartoum. Les forces du général Al-Burhan ont revendiqué hier la prise du pont de Souba dans la capitale du pays, un axe stratégique qui permet un accès direct au centre administratif de la ville, toujours aux mains des paramilitaires, des forces de soutien rapide. Un avion militaire s'est également écrasé dans les environs de la capitale avec à son bord plusieurs officiers, dont le général Bahr Ahmad Bahr. L'avenir de l'aide publique au développement se discute au Cap à partir de ce matin. Sommet en Afrique du Sud de plus de 500 grandes banques de développement sous le label La Finance en Commun. Trois jours de discussion autour des thèmes de la croissance inclusive, du développement durable et du changement climatique. Une réunion où le désengagement de l'agence américaine USAID fera office de toile de fond. Valentin Hugues.
Le contexte américain ne pourra pas être ignoré. Depuis son investiture le mois dernier, Donald Trump a décidé de geler les aides américaines dont le continent africain était le principal bénéficiaire. On parle de plus de 11 milliards de dollars en 2024 via l'agence de développement américaine USAID, forcée d'arrêter brutalement ses activités. Alors dans de nombreux pays africains, des établissements de soins couvrant par exemple le VIH ont dû baisser le rideau. Et parmi les plus gros bénéficiaires en matière de santé, on retrouve l'Afrique du Sud, pays qui accueille donc ce sommet Finance en commun qui débute aujourd'hui avec plus de 500 banques de développement du monde entier réunies au Cap. Et alors que l'avenir du développement est largement perturbé par ces décisions américaines soudaines. Pendant trois jours, l'heure sera au renforcement des partenariats, à la signature d'accords, mais aussi et surtout à cette réflexion sur l'avenir de l'aide au développement. Et puis en parallèle du sommet, les ministres des Finances des pays du G20, présidés par l'Afrique du Sud, se rassemblent eux aussi au Cap pour une première réunion de travail, réunion boudée par les États-Unis. Valentin Hugues, Le Cap, RFI.
Juste après ce journal, l'invité de RFI sera Rémi Rioux, patron de l'Agence française de développement. Il répondra aux questions de Christophe Boisbouvier.
Afrique Matin sur RFI.
Et le dossier de RFI Matin d'Afrique Matin se penche aujourd'hui sur la figure de Frantz Fanon, le psychiatre et militant politique dont le travail reste encore méconnu en Tunisie. Il a pourtant exercé pendant 4 ans à l'hôpital Charles Nicolle de Tunis. C'était entre 1957 et 1961. C'est également là qu'il a rédigé une grande partie de son livre anticolonialiste Les damnés de la terre. À l'occasion de son centenaire cette année, pour la première fois, la faculté de médecine à Sousse lui a consacré un colloque international et multidisciplinaire afin de rendre hommage à la pensée du philosophe et à son approche humaine et sociale de la psychiatrie. Lilia Blaise, notre correspondante à Tunis, s'est rendue sur place.
À la faculté de médecine de Sousse, à 140 km de Tunis, étudiants en médecine et en sciences humaines, anthropologues, médecins, sociologues et historiens se sont réunis pour parler de Frantz Fanon. Wael Garnaoui, psychologue et enseignant, est l'un des organisateurs de ce colloque.
Voilà, on approprie aussi Fanon de notre façon, parce que Fanon, l'antiraciste, nous intéresse, mais pas de la façon qui intéresse, par exemple, la diaspora, etc. Moi, j'ai vécu en France, j'ai travaillé avec les immigrés, je sais les problématiques. Ils sont presque liés, mais pas pareils. Donc, on voulait faire le pont aussi entre ce qui est fait et ce que nous pouvons faire.
Dans les années de la Terre, nous montre Fanon que la colonisation ne se limite pas à une oppression politique et économique.
Il s'agit aussi pour l'historienne Kmar Bendana de restaurer la mémoire d'un psychiatre encore trop méconnu en Tunisie, malgré ses années de pratique sur place à l'hôpital Charles Nicolle à Tunis.
Ce n'est pas du tout pour l'idolâtrer ni rien du tout, mais c'est aussi pour revenir à une histoire beaucoup plus complexe, beaucoup plus plurielle de la Tunisie, et sur le plan médical, et sur le plan politique, et aussi sur le plan de la production des idées politiques.
Et le colloque a permis aussi à toute une génération d'étudiants de découvrir Frantz Fanon pour la première fois. Beaucoup ont dit se sentir inspirés par l'engagement anticolonial du militant, qui fait écho au soutien actuel de la jeunesse tunisienne en faveur de Gaza. Lilia Blaise, Sousse, RFI.
Frantz Fanon au cœur d'un biopic baptisé sobrement Fanon et qui sort le 2 avril prochain en France. Mais en Algérie et en Tunisie, c'est un autre long métrage qui est actuellement projeté pour la première fois. Frantz Fanon du réalisateur algérien Abdennour Zaza. Son réalisateur s'est focalisé sur les années de Fanon à l'hôpital de Joinville-Blida de 1953 à 1956 où il a révolutionné le traitement des patients en introduisant la psychiatrie dite institutionnelle. Il y développe sa pensée sur l'impact psychologique de la colonisation sur le colon et le colonisé, des années importantes dans le parcours du psychiatre, pendant lequel il s'est également engagé dans la guerre d'Algérie aux côtés du FNL, le Front de Libération Nationale. On écoute le cinéaste.
J'ai choisi comme décor les vrais lieux où a travaillé Fanon. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé et ça a donné au film une espèce d'authenticité. Cela me fait beaucoup plaisir. Les gens souvent le confondent, ils croient que c'est un documentaire en fait. Et les cinéastes, je pense qu'ils sont là juste pour reconstituer, pour fabriquer des souvenirs en fait, comme l'a dit si bien dit Jean-Luc Godard. Et ce film, je l'ai fait exactement dans ce sens, pour pallier à ce manque d'image de Fanon et de cette mémoire de l'hôpital et créer un moment filmique d'une heure ou une heure et demie pour essayer de créer ce souvenir et cette pièce manquante au puzzle de l'histoire algérienne. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore raconté ou essayé de faire l'effort de mémoire justement pour mettre en image des ponts importants de notre histoire.
Le cinéaste Abdennour Zaza, le dossier d'Afrique Matin était préparé par Lilia Blaise. Presque 7 heures en temps universel dans un instant. Clotilde Dumay pour la suite d'RFI Matin.